Parce que c'est bien beau d'arriver, de se décider à faire les choses, mais souvent le défi, c'est celui de la persévérance. Alors je vais dire, alors pendant cette année 520, le prophète Agé est intervenu à 4 reprises. C'est très très précis dans le texte, on peut même le situer la date exacte de ses interventions, au mois d'août, au mois d'octobre et 2 fois au mois de décembre. L'oracle que je vais lire, c'est le 3e. Donc, au mois de décembre, les travaux ont déjà repris, mais vous verrez que le peuple a malgré tout a besoin de continuer à être exhorté par le prophète. Je vais prier avant de lire ce texte. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole qui contient une grande diversité d'enseignements, qui nous permet de te découvrir et de te redécouvrir chaque fois sous un angle nouveau, mais toujours finalement pour arriver au même message qui est celui de la rédemption en Jésus-Christ. Nous te prions ce matin d'ouvrir notre cœur afin que nous puissions recevoir ta parole, non seulement la comprendre, mais également en tirer des applications pour notre vie de tous les jours, qu'elle puisse nous aider à grandir dans notre relation avec toi, dans notre manière de te servir et de comprendre également toutes les implications de l'œuvre de la rédemption dans notre vie. Amen.
Amen.
Donc je lis au chapitre 2. Les versets 10 à 19. Agé, chapitre 2, les versets 10 à 19. Le 24e jour du 9e mois, la 2e année de Darius, la parole du Seigneur parvint à Agé le prophète. Ainsi parle le Seigneur des armées. Demande au prêtre une loi à ce sujet, je te prie. Si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la viande sacrée et qu'il touche avec le pan de son vêtement du pain, un plat, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, celui-ci sera-t-il consacré ? Les prêtres répondirent « Non ». Et Agé dit « Si quelqu'un est devenu impur au contact d'un cadavre et qu'il touche une de ces choses, celle-ci sera-t-elle impure ? Les prêtres répondirent, elle sera impure. Alors Agé dit, tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi, déclaration du Seigneur, tel est tout le travail de leurs mains, ce qu'ils présentent devant moi est impur. Maintenant, faites attention, je vous prie, à ce qui va se produire à partir de ce jour, et par la suite, avant qu'on ait mis pierre sur pierre dans le temple du Seigneur, alors quand on venait à un tas de grains de 20 mesures, il n'y avait que 10. Quand on venait au pressoir pour tirer 50 mesures d'un foulage, il n'y en avait que 20. Je vous ai frappé par la rouille, par la nielle et par la grêle, ainsi que tout le travail de vos mains, sans vous ramener à moi. Déclaration du Seigneur. Faites attention, je vous prie, à ce qui va se produire à partir de ce jour et par la suite, depuis le 24e jour du 9e mois, depuis le jour où le temple du Seigneur a été fondé, faites-y attention. Y a-t-il encore de la semence dans la grange ? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté. À partir de ce jour, je vais bénir. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, nous avons plusieurs animaux à la maison, bien que nous vivions en appartement. Un pigeon, un cochon d'Inde, un lapin nain et un chat et demi, parce qu'il y en a un qui vit plus souvent à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et ce qui m'a toujours étonné avec les animaux, c'est leur sens de la propreté. Ils prennent beaucoup de temps tous les jours pour faire leur toilette, ils ont des techniques bien à eux, et ils font en sorte de se garder le plus propre possible, ce qui ne les empêche pas quelques instants après d'aller se jeter dans la terre. Mais voilà, malgré tout, ils reviennent toujours à ce nettoyage quotidien pour que leur fourrure reste belle et soyeuse. Un animal qui prend particulièrement soin de sa fourrure, c'est l'hermine. C'est un petit rongeur, le nom scientifique, je crois que c'est la souris d'Arménie. Alors c'est un petit rongeur, il n'est pas très très grand, c'est beaucoup plus petit qu'un chat, mais on dit au sujet de l'hermine qu'elle veut tellement rester propre que même si elle est pourchassée par un chasseur et que pour lui échapper, elle doit traverser une flaque de boue, elle préfère stopper net, tant pis, je vais me faire attraper par le chasseur, mais il n'est pas question que j'aille me salir dans la boue. Dans ce texte, il est beaucoup question de propreté, pureté, impureté, on pourrait traduire saleté, propreté. C'est une notion qui est très présente dans l'Ancien Testament, qu'on a peut-être un peu plus de mal à intégrer en tant qu'occidentaux, parce que ça faisait partie des lois de Moïse. Mais lorsqu'on parle de propreté ou de saleté, ce sont des notions que nous comprenons mieux. Par exemple, vous avez des gens pour qui la propreté peut devenir une obsession. Vous en avez peut-être connu, on parle même de TOC, parce qu'ils ont besoin constamment, par exemple, de se laver les mains, ou que tout chez eux soit impeccable en permanence. Et ça part de quelque chose de positif, c'est bien de vouloir rester propre. Mais quand ça devient une manie, quand ça devient une obsession, eh bien, ça devient très très vite invivable, parce qu'on vit dans un monde où la saleté, la poussière est partout. Donc ça devient très très vite ingérable. Et pour la personne qui a cette obsession, mais également pour l'entourage. J'ai connu un couple qui a fini par divorcer parce que le mari avait ce genre de toc et que c'était devenu tellement invivable pour son épouse qu'un jour elle a dit voilà, il faut se séparer. Je ne dis pas qu'elle a eu raison de le faire, mais voilà, ça montre à quel point ce genre de choses peut devenir invivable. Alors, à l'inverse, vous avez des gens qui ont un problème avec la propreté et qui se complaisent dans la saleté. Alors j'ai connu quelqu'un, par exemple, qui ne supportait pas le contact du savon avec sa peau, ce qui fait qu'il ne se lavait jamais. Alors le problème, c'est lorsqu'il venait au culte, hein, il y avait une odeur assez forte qui a empêché tout le monde de se concentrer parce qu'il était tellement sale que voilà, c'était très très difficile aussi à vivre pour les autres. Alors, on va parler de propreté, de saleté, de pureté et d'impureté à partir de cet oracle du prophète Agée, puisque le reproche principal que Dieu fait à son peuple dans ce texte, c'est son état d'impureté. Mais parce que Dieu est un bon pédagogue, vous remarquerez qu'il ne fait pas le reproche directement. Comme souvent avec les auteurs bibliques, quand on a un reproche à faire, on prépare le peuple de Dieu psychologiquement avant qu'il soit en état de pouvoir le recevoir. Et dans cet oracle, Dieu, par la bouche du prophète Agée, va commencer par poser deux questions aux prêtres, car ce sont eux qui sont censés être les médecins du peuple. Ce sont eux qui sont censés pouvoir poser un diagnostic sur l'état actuel du peuple de Dieu. Première question, je la relis. Si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la viande sacrée et qu'il touche avec le pan de son vêtement du pain, un plat, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, celui-ci sera-t-il consacré ? Les prêtres répondirent non. Alors la viande sacrée, c'était la viande qui provenait des sacrifices qui étaient offerts à Dieu. Et les Israélites s'imaginaient que parce que régulièrement ils se rendaient au lieu de culte pour offrir des sacrifices, cela les dispensait d'obéir à Dieu dans les autres domaines de leur vie. Et ce que le prophète est en train de leur enseigner à travers cette question qu'il leur est posée, eh bien, c'est que ce qui intéresse Dieu dans notre vie, ce n'est pas simplement que nous lui apportions des sacrifices, ce n'est pas seulement que, bon, ben ça y est, j'ai fait mon devoir chrétien, je suis allé à l'église dimanche matin, et qu'à côté de cela, eh bien, j'ai un peu ma zone secrète, hein, où là, Dieu n'a pas le droit d'entrer. Imaginez que dans ce lieu de culte, voilà, vous avez le lieu de culte, vous avez la salle pour les enfants, et puis derrière, quelque part, vous avez une pièce secrète, et la particularité de cette pièce secrète, c'est que lorsqu'un chrétien y entre, il a le droit de faire ce qu'il veut. Il a le droit de faire des choses que Dieu désapprouve, parce que c'est la pièce secrète. Vous direz, mais c'est pas logique. On est dans un lieu saint, il n'est pas question d'agir de la sorte. Pourtant, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous avons tous tendance à vivre de cette manière-là. Très souvent, nous faisons de bonnes choses pour Dieu, nous faisons ce que nous savons que Dieu attend de nous, mais il y a ce domaine de ma vie où Dieu me demande quelque chose de précis et j'en ai pas tellement envie. Donc, je cache cela, j'essaie de l'oublier en faisant plein d'autres choses pour Dieu. Mais Dieu revient à la charge régulièrement par sa parole, par parfois des exhortations fraternelles, par toutes sortes de moyens, pour me dire ce qui m'intéresse, ce n'est pas simplement que tu ailles à l'église tous les dimanches, c'est que tu me donnes ton cœur et que ta vie entière m'appartienne. Si tu veux vraiment être pur, eh bien il faut que je puisse nettoyer dans tous les compartiments de ta vie et que toute ta vie puisse être remise entre mes mains et être examinée à la lumière de ma parole pour être réformée selon les exigences de ma loi qui est sainte, qui est bonne et qui est pure. Déjà un premier défi très important pour le peuple de Dieu et pour chacun d'entre nous. Alors à l'époque du peuple de retour d'exil, c'était le point sensible, c'était la reconstruction du temple. C'est pas suffisant d'offrir des sacrifices, il faut aussi que vous vous remettiez au travail, que vous fassiez ce que je vous ai ordonné clairement, de vous remettre au travail pour la reconstruction du temple. Deuxième question, l'Éternel trouve-t-il... Oui, non, ça c'est autre chose... Je passe. Deuxième question. Si quelqu'un est devenu impur au contact d'un cadavre et qu'il touche une de ces choses, celle-ci sera-t-elle impure? Et les prêtres répondirent, parce qu'ils connaissaient bien la loi de Moïse, eh bien oui, elle sera impure. Ce que cette deuxième question nous montre, c'est que si la sainteté a du mal à se propager, ce n'est pas parce que je fais ce qui est bien dans un domaine que ça va bien forcément dans tous les autres domaines. L'impureté, à l'inverse, se propage très très vite. Si on étudie les lois du Lévitique, toutes les lois mosaïques par rapport à l'impureté, on s'aperçoit qu'à partir du moment où quelqu'un se retrouve pour diverses raisons dans un état d'impureté, par exemple parce qu'il a touché un cadavre, ou par exemple parce qu'il a une maladie de peau qui le rend impur, il y avait plein de raisons différentes par lesquelles on pouvait devenir impur, et à partir du moment où vous deveniez impur, eh bien tout ce que vous touchiez devenait impur. Il en est un peu ainsi du péché qui dans le monde, depuis Adam qui a désobéi le premier, s'est propagé, s'est transmis à toutes les générations et dans tous les domaines. Le péché maintenant il est présent partout comme une maladie contagieuse. Avec la grippe par exemple, en hiver on est confronté à ce phénomène avec les pubs, hein, à la télévision qui nous disent faites attention de pas de vous laver les mains régulièrement, parce que si vous ne le faites pas, vous allez voir la grippe, hein, ce virus, ça va se propager et atteindre des millions de personnes. Donc si la sainteté se propage difficilement, par contre, L'impureté, quant à elle, se propage à la vitesse grand V, avec toutes les conséquences que cela impliquait pour le peuple. Lorsque vous vous retrouviez en état d'impureté, vous étiez exclu de la communauté d'Israël. Les lépreux devaient sortir du camp. Ou alors vous deviez passer par tout un processus compliqué pour revenir à un état de pureté. Alors le diagnostic tombe après que ces deux questions ont été posées. Âgé dit, tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi, tel est tout le travail de leurs mains, ce qu'ils présentent devant moi est impur. Parce que le peuple avait tellement attendu pour obéir à Dieu et reconstruire le temple, il était devenu impur aux yeux de Dieu. Puisque dans la loi de Dieu, la chose la plus importante qui pouvait nous rendre impurs, eh bien, c'était la désobéissance. Ça pouvait être l'idolâtrie ou la transgression de ses commandements, le fait de désobéir à un ordre que Dieu avait clairement donné à son peuple. Et lorsque le peuple faisait cela, eh bien, cela le rendait, aux yeux de Dieu, cela le rendait impur. Alors on peut se demander pourquoi Agé fait ce reproche au peuple au présent, en disant « ce peuple est impur devant moi », alors que les travaux ont déjà repris. On pourrait dire qu'ils se sont repentis, ils font ce qu'il faut, les travaux ont repris. Pourquoi est-ce que Agé leur parle comme s'ils étaient toujours impurs et désobéissants ? Là, je dois dire que j'ai eu un peu de mal à trouver la réponse à cette question. Il y a deux réponses possibles. Peut-être que le prophète parle au présent de la situation passée, mais il ne considère pas que le peuple est toujours impur. Mais ça ne satisfait pas complètement cette réponse. Je pense qu'une réponse plus probable, c'est que malgré le fait que le peuple se soit repenti, eh bien, l'état d'impureté ne disparaît pas comme ça du jour au lendemain. Ça va toujours prendre un processus et un certain temps pour que le peuple retrouve sa pureté. Et lorsqu'on étudie les rituels pour retrouver la pureté dans l'Ancien Testament, on s'aperçoit que ça pouvait prendre pas mal de temps. Par exemple, lorsqu'une femme accouchait, elle était considérée impure pendant 40 jours. Mais ce n'était pas forcément lié à une faute morale. Parfois, c'était des choses tout à fait légitimes qui pouvaient vous rendre impure. Tout ça comme pour rappeler au peuple de Dieu que nous avons affaire à un Dieu qui est tellement saint que ça dépasse notre compréhension. Et que nous vivons dans un monde de péché où plein de choses peuvent nous priver de la présence de Dieu à chaque instant. Et c'était comme un rappel permanent dans la vie des Israélites et dans tous les domaines de leur vie de veiller à ne pas se laisser contaminer par le péché. Donc le prophète est en train de leur dire, c'est bien que vous ayez repris les travaux de reconstruction, mais ça va prendre encore un certain temps avant que vous ne retrouviez la plénitude de votre relation avec Dieu. Et le prophète continue en leur rappelant les conséquences douloureuses de leur désobéissance. On le voit à partir du verset 15. Avant qu'on ait mis pierre sur pierre dans le temple du Seigneur, donc que les travaux aient repris, alors quand on venait à un tas de grains de 20 mesures, il n'y en avait que 10. Quand on venait au pressoir pour tirer 50 mesures d'un foulage, il n'y en avait que 20. Ça, c'était les conséquences de la désobéissance sur la vie concrète des Israélites jusque dans leur récolte. Lorsque le peuple désobéissait, eh bien, Dieu retirait sa bénédiction. Et lorsque ils essayaient de semer ou de récolter, eh bien, les fruits n'étaient pas présents. On s'attendait à une grande récolte. Ben non, il n'y a pas grand-chose. Et même lorsque on passe le raisin pour en tirer du vin, eh bien, on s'aperçoit que finalement, on n'arrive pas à en tirer grand-chose. Le verset 17 indique la cause de ce désastre naturel. Je, dit Dieu, vous ai frappé par la rouille, par la nielle et par la grêle. C'est pas un hasard. C'est pas arrivé simplement parce que C'est une mauvaise année. C'est moi, l'Éternel, votre Dieu, parce que vous avez désobéi, qui vous ai frappé par tous ces moyens, ainsi que tout le travail de vos mains, et vous n'êtes pas revenu à moi, déclaration du Seigneur. Alors la rouille, c'est une maladie causée par un vent soufflant du désert qui brûle les récoltes. Donc du coup, les jeunes pousses ont du mal à se développer. La nielle, au contraire, est une maladie qui est due à un excès d'humidité. Donc les plantes qui ont survécu à la sécheresse pourrissent parce que la terre est trop humide. C'est comme si la nature s'acharnait contre les récoltes. Et comme si cela ne suffisait pas, la grêle, pour ceux qui ont survécu, la grêle vient et vient encore anéantir les récoltes. Sont touchés tous les arbres fruitiers qui sont normalement les signes de la bonté de Dieu dans le pays promis. Tous ces signes de la bonté de Dieu deviennent des signes de sa colère, de son châtiment, de son jugement contre le peuple désobéissant. Vous voyez que dans la vie, parfois, ça ne rigole pas quand même. C'est par le même genre de plaie que Dieu avait frappé l'Égypte au moment de l'Exode, si on fait la comparaison entre les deux. C'est comme si Dieu leur disait, vous pensez que parce que vous êtes mon peuple, vous pouvez faire n'importe quoi? Regardez comment j'ai frappé l'Égypte. Et regardez ce que je vous fais aujourd'hui, ce qui se passe dans votre vie. Il n'y a pas tellement de différence en réalité. Donc vous avez intérêt à réfléchir à votre conduite et à réagir. Parce que la situation est beaucoup plus grave que vous ne le pensez. Souvent le problème dans nos vies, c'est que nous ne réalisons pas la gravité des choses que nous faisons. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin du regard perçant de Dieu sur notre vie pour réagir et nous réveiller de notre sommeil et de notre torpeur. Si je m'arrêtais là, bien sûr que vous repartiriez avec un poids très lourd sur les épaules, exactement comme ce que le peuple a dû ressentir lorsqu'il a entendu la première partie de cet oracle qui était vraiment un oracle de l'Éternel. Et nous aurions tort de découper de nos Bibles cette partie-là parce qu'elle est dure à entendre. C'est la parole de Dieu, il nous faut l'écouter jusqu'au bout. Mais nous savons que notre Dieu est aussi un Dieu de grâce et que lorsqu'il nous parle avec sévérité, il y a toujours sa bonté qui n'est pas loin et qui nous ouvre une porte pour que sa grâce puisse se manifester. Et c'est ce qui se passe à partir du verset 18 où Dieu fait à son peuple une promesse très réconfortante. « Faites attention, je vous prie, à ce qui va se produire à partir de ce jour et par la suite, depuis le 24e jour du 9e mois, depuis le jour où le temple du Seigneur a été fondé. Faites-y attention, à partir de ce jour, je vais bénir. » Alors, « faites-y attention », littéralement, c'est « mettez votre cœur sur ces choses. » Prêtez-y vraiment très attention. Jusqu'à présent, dans les chapitres précédents, le prophète avait dit « faites attention, mettez votre cœur sur votre conduite. » Mais vous remarquerez qu'à partir de ce troisième oracle, le prophète invite le peuple à mettre son cœur non plus sur les difficultés passées, qui ont été réelles et causées par la désobéissance du peuple, mais sur la bénédiction à venir que Dieu leur annonce aussi du fait de leur repentance et de la reprise des travaux. Ça ne va pas venir tout de suite, il va falloir patienter, mais il y a une promesse de bénédiction à venir. Parce que le temple du Seigneur a été fondé, nous dit le texte, eh bien les prochaines récoltes, qui ne sont pas encore là, on a semé, mais on ne sait pas encore quel sera le résultat. Au printemps prochain, les prochaines récoltes seront abondantes. On imagine le soulagement du peuple à la proclamation de cette promesse. Après avoir été traité de peuple impur, et tout ce que vous faites est considéré comme impur, malgré tout cela, malgré votre état d'impureté, eh bien, à partir de ce jour, le jour même de cet oracle que vous entendez, qui est un oracle de jugement, à partir de ce jour, je vais bénir. Il y a presque une contradiction dans cet oracle. Et le peuple a dû être un peu intrigué par ce qu'il était en train d'entendre. C'est un peu comme si un médecin annonçait à un malade du cancer qu'il est en rémission. Le cancer a disparu, le traitement a fonctionné, désormais vous n'aurez plus de problème. Malheureusement, dans le cas des Judéens, la rémission a été de courte durée. Quelques années plus tard, le prophète Malachi, le dernier prophète de l'Ancien Testament, reproche au peuple d'avoir oublié ses bonnes résolutions. Et les mêmes problèmes de désobéissance ont refait leur apparition, avec les mêmes conséquences, les récoltes qui sont mauvaises, et un appel à une remise en question, un appel à la repentance pour revenir à une véritable obéissance. Vous voyez que plus que d'une simple rémission de quelques semaines, quelques mois, mais quelques années, nous avons besoin d'une guérison définitive. Nous avons besoin d'être purifiés de manière définitive de cette impureté qui nous colle à la peau et qui revient constamment sur nous, même lorsque nous essayons de nous en débarrasser. Alors il est intéressant de voir, ce sera mon dernier point, lorsque nous lisons les évangiles, que Jésus nous y est présenté comme la réponse à tous les cas d'impureté répertoriés dans l'Ancien Testament. Les esprits impurs lui obéissent. Il les chasse sans difficulté par l'autorité qui est la sienne. Il touche un lépreux. Après avoir tendu la main, il touche un lépreux. Normalement, quand on touche un lépreux, qu'est-ce qui se passe? On devient impur. Parce que le lépreux est impur et donc on est censé soi-même devenir impur. Mais non, il touche le lépreux et lui dit « Sois pur ». Vous voyez, l'ordre est inversé. Autrefois, c'était l'impureté qui se propageait plus vite que la sainteté, mais en Jésus-Christ, c'est l'inverse. Il est tellement notre médiateur entre Dieu et les hommes, il est tellement puissant, tellement saint, son œuvre est tellement parfaite, que désormais, chose extraordinaire pour les Juifs, c'est le phénomène inverse qui se passe, sa sainteté se propage à tout ce qui nous touche, y compris au cadavre, puisqu'on le voit à plusieurs reprises ressusciter les morts. Alors plutôt que d'être contaminé par l'impureté du cadavre, c'est lui qui va leur redonner la vie. Une femme atteinte d'une perte de sang, qui donc la rendait impure, impropre à l'adoration cultuelle et qui l'excluait de la communauté, elle touche juste le bord de son vêtement. C'est même pas Jésus qu'elle touche, c'est le bord de son vêtement. Vous savez, le pan du vêtement et qui ne pouvait pas communiquer la sainteté. Ben là, si, sa sainteté, la guérison est transmise, la pureté est transmise à cette femme atteinte d'une perte de sang. Il purifie le temple et pose les fondations d'un nouveau temple en ressuscitant d'entre les morts. Un temple qui est parfaitement pur et dont nous sommes les pierres vivantes. Nous qui sommes tellement impurs en Adam, en Jésus-Christ, nous devenons parfaitement purs. Son sang nous purifie de tout péché. Et c'est important de comprendre ces notions dans l'Ancien Testament, parce qu'on les retrouve dans le Nouveau, et pour bien les comprendre, pour bien en comprendre toute la portée, toute la richesse, eh bien, il faut aussi avoir un arrière-plan dans l'Ancien Testament. Il communique sa pureté, sa sainteté et sa justice à tous ceux qui croient en lui. Bien sûr, lorsque Jésus était présent sur terre, il suffisait de le toucher, ou de manifester son adhésion à son enseignement pour être guéri, pour être purifié. Aujourd'hui, Jésus est au ciel, donc je ne peux pas chercher à toucher le bord de son vêtement, mais il me suffit de simplement mettre ma foi en lui. Si je mets ma confiance en lui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il me communique sa sainteté, il me communique sa justice, il me communique sa pureté. Et toute mon impureté disparaît. C'est l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Il a pris à la croix sur lui toutes nos impuretés, toutes nos saletés l'ont recouvert de la tête aux pieds, à tel point qu'il a été abandonné par son Père Céleste, qui était trop saint pour pouvoir apercevoir une telle chose. Mais à partir de là, ça lui permet de nous imputer, de nous donner, de nous communiquer sa sainteté parfaite, sa pureté parfaite. Et normalement, nous serions impropres à nous approcher de Dieu et à lui rendre un culte dimanche après dimanche, parce que le péché nous environne si facilement. Mais c'est à travers le Christ et à travers sa pureté parfaite, eh bien, que nous pouvons nous approcher de lui. Comme par la faute d'un seul, une seule faute, nous dit l'Épître aux Romains, la condamnation, la faute d'Adam, s'étend à tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification, vous pourriez dire aussi la purification, qui donne la vie, s'étend à tous les hommes. On retrouve cette inversion du phénomène. Avant, c'était le péché qui se communiquait de génération en génération. Désormais, en Jésus-Christ, tous ceux qui mettent leur confiance en lui, c'est sa sainteté à lui, par un seul acte de justice, qui se transmet à l'ensemble de son peuple. Comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, le Christ, beaucoup seront rendus justes. Alors que le péché nous avait rendus impurs dès le ventre de notre mère. Nous n'étions pas encore nés que déjà, à cause du péché originel, nous étions déjà considérés comme impurs aux yeux de Dieu. Cela nous excluait de la présence de Dieu et de sa bénédiction. Mais le Christ nous a arrosés de sa sainteté. C'est Calvin qui dit cela dans un de ses commentaires. J'aime beaucoup cette expression. Le Christ nous a arrosés de sa sainteté. Comme quand on arrose la pelouse, ou comme on est entièrement recouvert. Il n'y a rien qui échappe. Quand on est recouvert d'eau, il n'y a rien qui échappe. Nous sommes entièrement recouverts de sa sainteté et rendus parfaitement purs aux yeux de Dieu. Jésus affirme aussi que l'impureté est avant tout un problème de cœur et non plus aujourd'hui un problème de comportement extérieur. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais c'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui rend l'homme impur. Ce que Jésus veut dire par là, c'est qu'une fois que nous avons été arrosés de sa sainteté, il va également transformer notre cœur afin que nous puissions produire des œuvres qui soient pures aux yeux de Dieu. Ce n'est pas seulement que sa justice est imputée, mais concrètement dans notre vie de tous les jours, eh bien, nous produisons, parce que notre cœur a été transformé, des œuvres pures, des œuvres bonnes, des œuvres saintes que Dieu peut approuver à travers le sang de Jésus qui les rend réellement parfaites. J'avais commencé en parlant des gens qui ont des problèmes avec la propreté ou avec la saleté, parce que soit ils sont des obsessionnels de la propreté, soit ils se complaisent dans la saleté. Il en est parfois ainsi des chrétiens par rapport à la sainteté. Il y a des chrétiens qui sont des maniaques de la sainteté, c'est-à-dire qu'ils passent leur temps à s'introspecter ou à examiner les autres, voire à épier les autres, pour s'assurer qu'ils sont aussi saints qu'ils pourraient l'être. Ça peut paraître quelque chose de très positif et de très bien, la recherche de la sainteté. Mais si vous le faites indépendamment de l'œuvre que le Christ a accomplie pour vous, vous allez devenir obsessionnel. Et vous allez empoisonner la vie de votre entourage. Parce que vous oubliez que vous vivez dans un monde où le péché est toujours présent. Et malgré tous nos efforts, eh bien, on n'arrivera jamais à atteindre le niveau que l'on voudrait atteindre. Et donc, il faut éviter le piège du perfectionnisme en tant que chrétien. Et non pas regarder nos propres œuvres, nos propres accomplissements en matière de sainteté, mais plutôt regarder ce que le Christ a objectivement accompli pour nous et qui ne change jamais. Et même lorsque je suis découragé, lorsque j'ai l'impression que je ne progresse pas trop dans ma vie chrétienne, le fait que le Christ m'a arrosé de sa sainteté, eh bien ça ne change jamais. Et ça va me permettre de trouver un équilibre dans ma vie chrétienne. Et à l'inverse, si j'ai vraiment compris ce que le Christ a accompli pour moi, je ne devais pas non plus me complaire dans le péché, dans la saleté ou dans la boue, parce que je veux que ma vie reflète cette sainteté qui m'a été communiquée. Et je vais, presque sans le chercher, si j'ai vraiment cette compréhension de l'œuvre du Christ et de la rédemption, sans même trop y réfléchir et le chercher, naturellement, il y a un équilibre qui va venir s'établir dans ma vie chrétienne, dans ma spiritualité, dans ma piété. Je ne m'éloignerai pas de la parole de Dieu, ni par un excès de piété, ni par un défaut de piété. Mais je trouverai le chemin que Dieu trace pour moi pour vivre ma relation avec Dieu d'une manière équilibrée, qui ne soit pas trop pesante pour les autres, mais qui en même temps les aide eux aussi à progresser. Et bien que le Seigneur continue à nous éclairer sur la richesse de l'œuvre objective qu'il a accomplie pour nous, parce que c'est vraiment là la clé d'une spiritualité équilibrée. Je vous invite à la prière. Seigneur, c'est vrai qu'il est souvent difficile pour nous de trouver un équilibre dans notre vie chrétienne en fonction de notre personnalité, de notre passé, des expériences que nous avons vécues. Nous passons notre temps à tomber dans un extrême ou dans un autre. Soit nous sommes trop légalistes, ou au contraire, nous faisons de notre liberté chrétienne un prétexte pour faire n'importe quoi. Nous te prions, Seigneur, de construire en nous une compréhension toujours plus profonde de ton œuvre de grâce, de ce que tu as accompli pour nous à la croix, afin que cette compréhension même produise en nous une spiritualité équilibrée, qui soit centrée non pas sur nos propres accomplissements, ni sur ceux des autres, mais sur ce que le Christ lui-même a accompli pour nous. Amen.